37 millions de personnes dans le monde sont atteintes du virus VIH en espérant qu'il ne s'aggrave pas en sida. Près de 3 sur 5 prennent des traitements antirétroviraux pour éviter la maladie. En 2017, le chiffre des nouvelles infections identifiées reste très élevé. 1 800 000 personnes ont découvert leur séropositivité, soit près de 5 000 cas par jour. Depuis lundi, à Amsterdam, des milliers de délégués, chercheurs, militants, activistes et personnes touchées par ce virus sont réunis pour la 22e conférence internationale sur le sida. Cela alors qu'on constate un relâchement dans la prévention et une baisse des financements internationaux et que cela fait craindre un rebond de l'épidémie. En résumé, la maladie est mieux traitée, mais elle fait toujours des ravages. En finir avec le sida, on en est encore loin. Le virus reste incurable et sans vaccin. Pour en savoir plus, nos invités ce soir à Amsterdam, au téléphone, ils participent à cette conférence internationale. Le professeur François Dabis, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida. Bonsoir.
Bonsoir.
Le professeur Jean-Michel Molina, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, monsieur.
Aurélien Beaucan. Bonsoir, Aurélien Beaucan.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association Aide et puis dans ce studio, à mes côtés, Daniel Messager, spécialiste des questions de santé à la rédaction de France Inter. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir, Pierre.
Pierre Veille. Le téléphone sonne.
À Nantes, Elisabeth nous écoute et souhaite interroger nos invités. Elisabeth, bienvenue, c'est à vous maintenant.
Merci, bonsoir à vous et merci pour vos émissions. J'ai juste une observation, enfin un questionnement. Depuis quelques jours, on nous parle d'un médicament qu'on pourrait donner, enfin prescrire aux personnes à risque, entre guillemets, je ne conçois pas qu'on soit plus à risque que quelqu'un d'autre, et que celui-ci préviendrait d'attraper le sida. Or, les préservatifs servent aussi à ne pas attraper la syphilis, qui est mortelle, plein d'autres d'IST, d'MST, qui sont extrêmement invalidantes. Et je me pose la question, pourquoi en parle-t-on autant ? Est-ce pour... Enfin, pour moi, ça décourage tout le monde de prendre un préservatif, enfin, d'utiliser les préservatifs, et je trouve ça vraiment à double tranchant. Voilà,
on va vous répondre, Elisabeth. Professeur Jean-Michel Molina, alors, Elisabeth parle d'un médicament, on va expliquer. Ce médicament, c'est cette prophylaxie pré-exposition, PrEP, le Truvada, qui consiste à prendre ce médicament, Truvada, avant un rapport sexuel pour ne pas être contaminé.
Oui, c'est cela. Je crois que ce que vous avez rappelé en introduction est important, c'est que l'épidémie du sida n'est toujours pas contrôlée, que ce soit au niveau international ou même au niveau français, où on déplore chaque année plus de 6000 nouveaux diagnostics. Et donc, il faut trouver d'autres moyens d'améliorer la prévention contre le VIH. Et bien sûr, le préservatif reste l'outil de référence. Mais s'il était utilisé suffisamment régulièrement par toutes les personnes qui le devraient, nous n'aurions pas ce nombre de nouveaux cas aussi important. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on cherche, avec le vaccin, à développer de nouveaux moyens de prévention de l'acquisition du virus. Les recherches ont été menées, en particulier en France, avec le soutien de l'Agence nationale de recherche sur le sida, ont permis d'identifier, en effet, une combinaison de deux médicaments qui permettent d'assurer aux personnes qui prennent ce traitement régulièrement une protection très élevée contre une contamination par le virus du sida dans les situations où ces personnes ou leurs partenaires n'utiliseraient pas de façon systématique un préservatif pour leur rapport sexuel. Donc c'est une avancée, je crois, très importante dans le domaine de la prévention contre cette infection, en attendant qu'on puisse un jour disposer d'un vaccin qui poserait d'ailleurs les mêmes questions que celles que posait votre auditrice concernant les risques d'autres maladies sexuellement transmissibles, qui sont effectivement un sujet qu'il faut également traiter et aborder. Et c'est l'avantage du préservatif que d'avoir une activité sur le VIH et également les IST, ce que n'a pas ce médicament qui vise seulement la prévention du VIH.
Alors on a beaucoup de courriels d'auditeurs, pas de confusion, donc le Truvada, ce n'est pas un vaccin. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est un médicament préservatif, Daniel Messager?
Il existe, quand on va dans un pays en zone impaludée, un médicament qu'on prend pour ne pas attraper le paludisme. C'est un peu le même principe. Donc ce médicament, l'auditrice disait qu'on en parle depuis quelques jours, on en parle depuis quelques jours parce qu'il y a une étude qui vient d'être présentée, menée par l'ANRS avec l'aide de l'association Aide, où il est démontré que sur près de 1500 volontaires qui ont participé à cette étude et qui ont été séronégatifs, qui le sont restés, il n'y a eu aucune contamination à l'issue de cette étude. Il a été démontré effectivement une nouvelle fois l'efficacité. On en parle depuis quelques jours à cause de cette étude, mais c'est en fait un médicament qui est disponible en France depuis 2 ans. La communication, l'information d'ailleurs par les pouvoirs publics n'est pas très donnée sur cette prophylaxie pré-exposition, à tel point que d'ailleurs l'association Aide, elle, a mené une campagne d'information qu'on voit beaucoup dans le métro actuellement à Paris pour que les personnes aient accès, se renseigne en tout cas, effectivement, à la fois le professeur Dabis et le professeur Molina le confirmeront, ce n'est pas forcément un médicament pour tout le monde, mais tout le monde doit être informé, tout le monde doit savoir que ce médicament existe et qu'il est possible de ne pas se contaminer avec.
Question d'auditeur, je vous les soumets, professeur François Dabis, est-ce qu'il y a des effets secondaires avec ce Truvada et est-ce que c'est remboursé par la Sécurité sociale ?
Alors effectivement, le remboursement a fait partie des premières décisions prises par notre ministère de la Santé dès la communication des premiers résultats il y a maintenant plus de 2 ans. Donc à partir de là, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de communication sur ce sujet, mais effectivement, le remboursement fait vraiment partie de la panoplie des décisions qui ont été prises et qui permettent progressivement de voir cette intervention se développer. En ce qui concerne les effets secondaires, nous avions la recherche initialement, on avait montré qu'il y en avait relativement peu, et l'étude qui est en cours, mais que Jean-Michel Molina vient de communiquer pas plus tard que cet après-midi à la conférence d'Amsterdam, nous confirme bien que dans des conditions réelles d'utilisation, chez des gens non sélectionnés, bien sûr à risque, mais qui n'ont pas été sélectionnés particulièrement pour faire un projet de recherche, nous avons des fréquences d'effets secondaires qui sont tout à fait acceptables, tout à fait modestes, et qui n'impactent en généralement pas, qui n'induisent en généralement pas d'arrêt de traitement. C'est ce que l'on cherche évidemment en priorité.
Aurélien Bocan, je rappelle, à Amsterdam, président de l'association Aide, ce médicament, Truvada, et Daniel Messager le rappelait, 100% de réussite, c'est vraiment un progrès majeur dans la prévention.
Ah ben c'est un progrès qui est effectivement majeur. Hein. Nous, de toute façon, dans les outils de prévention qu'on utilise, c'est vrai que la PrEP change tout. Là, on a fait cette campagne parce que finalement, on nous a promis au niveau des pouvoirs publics une campagne pour promouvoir justement la PrEP et le Truvada. On va pas l'attendre parce que ça fait 2 ans qu'on en parle, ça fait 2 ans qu'on a cette PrEP. La campagne, on l'attend toujours. Donc il y a un moment, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent être là-dessus, puisque on a déjà des modèles dans d'autres pays, notamment, enfin dans d'autres villes plutôt, notamment à Londres et à San Francisco, qui montrent clairement que effectivement une population, un certain nombre de personnes qui prennent la PrEP associé au dépistage, c'est vraiment important, hein, dépistage VIH, hépatite et IST, contribue clairement à une baisse des nouvelles contaminations sur le VIH et hépatite. Et je voudrais revenir sur ce que disait votre première auditrice tout à l'heure, en parlant des IST, en disant oui, mais effectivement la PrEP par rapport aux IST, ça protège pas. C'est vrai. Par contre, effectivement, le fait de pouvoir prendre la PrEP, c'est qu'on suit énormément les personnes qui sont sous PrEP et sous Truvada, c'est-à-dire que tous les 3 mois, elles ont un check-up complet, des tests VIH, hépatite et IST. Et du coup, effectivement, sont les dépistes positives sur IST, elles sont traitées immédiatement. Ce qui n'était pas le cas nécessairement, et ce qui n'est toujours pas le cas nécessairement, effectivement, d'une personne qui n'est pas sous PrEP. Le suivi est tellement important que finalement, les IST sont traités tout de suite. Et ça, c'est très important à préciser.
Merci Aurélien Bocan. À Toulouse, Kamel nous écoute. Bonsoir Kamel, c'est à vous.
Bonsoir monsieur, bonsoir Ménard, bonsoir. Je vous appelle parce que moi j'ai un petit peu, je me prête un petit oreille à ce genre de sujet. Moi je me souviens qu'il y a presque 30 ans, on faisait toute une campagne à la télévision, à la radio ou autre, sur les risques et les précautions à prendre, les préventions à prendre concernant cette maladie. À ce jour, moi, de mes yeux, j'entends moins parler. Alors que vous venez de dire, citer que les statistiques de la maladie progressent, malheureusement. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de cas de sidatique. Et qu'on entend moins parler, au point de vue prévention, dans les campagnes ou autres, sur les risques de cette maladie et les précautions à prendre.
Professeur François Dabis, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida, vous partagez le constat de Kamel ?
Alors, il est vrai que la situation a considérablement changé en 30 ans. Nous étions nous-mêmes il y a 26 ans à la conférence qui se tenait ici à Amsterdam. Nous avons revu quelques images en tout début de conférence dimanche et on peut se rendre compte combien le monde et le monde du sida a changé. Donc, les messages, il faut qu'ils évoluent. Il faut qu'on s'intéresse, bien sûr, à continuer à parler à la population générale, à tout le monde, mais aussi il faut parler aux populations qui sont particulières à risque. Et il est important de rappeler qu'en France aujourd'hui, les populations qui sont particulièrement à risque et qui constituent la majorité des nouvelles contaminations, ce sont les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et ce sont les personnes originaires des pays de plus forte endémie, qu'elles soient d'Afrique, des Caraïbes, d'Europe de l'Est ou d'Asie centrale par exemple. Et ça, c'est aussi bien les hommes que les femmes. Donc voilà des populations particulièrement vulnérables en France. Il faut, en plus de la communication générale, qu'on s'adresse aussi à ces populations vulnérables.
Et les auditeurs nous écrivent, je lis ce courriel de Mireille, pourquoi les nouvelles contaminations en France restent élevées? Près de 6000 nouveaux cas par an, nous dit-on, alors qu'il y a les autotests en vente dans les pharmacies, sans ordonnance, et puis cette fameuse pilule de prévention. Professeur Jean-Michel Molina.
Oui, écoutez, je crois que effectivement, on regrette qu'il y ait tant de nouvelles infections chaque année en France. C'est bien parce qu'il y a cette prise de conscience qu'il est nécessaire de renforcer, renouveler les messages autour de la prévention. On l'a rappelé, le préservatif reste l'outil de référence, mais ça ne suffit plus et la communication qui est exclusivement centrée sur le préservatif, finalement, ne passe plus auprès de certaines populations. C'est en ce sens que cette pilule qui permet effectivement d'empêcher l'acquisition du VIH est une excellente nouvelle car ça permet d'augmenter notre palette d'outils de prévention efficaces contre le VIH. Jusqu'à présent, nous n'avions que le préservatif. Maintenant, nous avions le préservatif et la PrEP. Et je dois dire qu'au-delà du bénéfice individuel qui a maintenant été bien démontré, hein, les personnes qui prennent régulièrement ce traitement sont protégés. Je crois qu'on peut faire le parallèle avec la pilule contraceptive chez les femmes, par exemple, qui veulent éviter des grossesses non désirées. On a aussi un préservatif pour empêcher les grossesses non désirées. On a également une pilule contraceptive. Je crois qu'il faut rappeler que notre objectif à l'Agence de recherche sur le sida en termes de prévention du VIH, ce n'est plus seulement de démontrer que le médicament marche à l'échelon individuel, c'est de démontrer que grâce à des messages de prévention renforcés autour du préservatif, autour de l'utilisation de cette pilule pour les personnes qui ne voudraient pas ou qui ne peuvent pas utiliser le préservatif, eh bien on arriverait dans les prochains mois, dans les prochaines années, à voir enfin la courbe des nouveaux diagnostics en France décliner et qu'on puisse enfin dire qu'en France, nous arriverons à contrôler cette épidémie. C'est cela notre objectif pour les années à venir.
Actuellement, je le rappelle, 160 000 personnes sont infectées par le VIH en France, mais 25 000 d'entre elles l'ignorent. Danielle Messager, notre auditrice, parlait de l'autotest en vente dans les pharmacies sans ordonnance. Pourquoi ça ne se vend pas bien, cet autotest?
Une des raisons pourrait être qu'on est obligé de le demander aux pharmaciens. C'est un frein. Ça pourrait être en accès libre, comme certains produits le sont effectivement à l'intérieur d'une pharmacie. Le fait de se présenter devant un comptoir avec des gens qui attendent derrière et de demander un autotest est certainement un frein et peut-être qu'on pourrait envisager effectivement un accès libre en pharmacie, ce qui développerait certainement l'utilisation de ces autotests. Alors moi, je voudrais revenir aussi sur ce qui se passe à Amsterdam. On est quand même dans le cadre d'une conférence internationale. Donc j'aimerais bien que vous me disiez, messieurs, peut-être François Davis, les informations qui ont circulé depuis le début de cette conférence à Amsterdam, dans les pays du monde, même si on sait qu'aujourd'hui il y a 22 millions de personnes sous traitement, il y a encore beaucoup de contamination parce qu'il y a une baisse, ONU SIDA le rappelait dans sa conférence de communication la semaine dernière, il y a une baisse de la prévention, il y a une baisse du dépistage. Quel est le sentiment qui ressort lors de cette conférence internationale? Est-ce qu'il y a quand même une inquiétude malgré une avancée incontestable de nombre de personnes sous traitement?
Alors, réponse du professeur François Davis.
Alors oui, il y a une inquiétude, c'est évident. Une inquiétude parce que nos progrès ne se font pas à la vitesse que nous avions imaginé et que nous avions prévu. La communauté internationale s'était fixé des objectifs à échelon 2020. 2020, c'est très bientôt. Hein, et nous en sommes relativement loin. Vous avez évoqué les 1 800 000 nouvelles contaminations par an. On s'était fixé pour objectif de descendre à 500 000 d'ici 2 ans pour arriver bien sûr à un taux beaucoup plus bas dans les années qui suivent. On voit bien qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à aller à la vitesse à laquelle on souhaiterait aller. Donc ceci crée des inquiétudes. Ces inquiétudes, il faut les tempérer par le fait que nous n'avons jamais eu autant de moyens à notre disposition. Encore faut-il, bien sûr, qu'on les mette en place à l'échelle qui est nécessaire. Et bien sûr, pour cela, la question des financements est quand même au centre de cette conférence, même si les décisions en la matière ne sont pas prises, bien sûr, dans une conférence comme celle-ci.
Courriel à l'instant de Caroline, elle nous dit « Bonsoir, je suis infirmière scolaire en collège et je fais une info VIH et protection tous les ans, mais pour certains élèves, le VIH est totalement inconnu. » Et puis on a des courriels qui nous parviennent concernant les stars qui ont participé aux travaux de votre conférence internationale à Amsterdam. Elton John, par exemple, a accusé la Russie et l'Europe de l'Est de discrimination envers les gays qui favoriserait le développement de la maladie. On nous demande pourquoi, que veut dire Elton John? Qui veut répondre, professeur Jean-Michel Molina?
Professeur Jean-Michel. Je vais laisser Aurélien Bocan répondre pour l'association AIDE, peut-être.
Très bien. Sera-t-il mieux placé que moi ? Aurélien Bocan, président de l'association AIDE, allez-y.
Oui, merci Jean-Michel. Oui, effectivement, c'est des sujets qu'on traite beaucoup. On va partir du simple fait qu'à partir du moment où il y a des stigmatisations, des discriminations, quelles qu'elles soient, hein, là, effectivement, Elton John parlait des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, les homosexuels, mais ça concerne aussi les usagers de drogue, les travailleurs du sexe, et également les populations trans. On est sur des États qui, de toute façon, ont mis en place une véritable politique de discrimination, voire même de criminalisation de ces populations. Hein. Donc forcément, ça va les éloigner du soin, ça va les éloigner de la prévention. Ce n'est pas des personnes qui vont aller se faire soigner parce que, de toute façon, elles savent qu'elles vont pas être bien accueillies ou elles savent qu'elles vont être stigmatisées. Donc de toute façon, on sait très bien que sur cette stigmatisation et discrimination, c'est le facteur majeur, en fait, des augmentations d'épidémie. Et on voit bien sur le rapport qui a sorti Homicida la semaine dernière qu'il y a trois zones, en fait, aujourd'hui, où on a une augmentation assez flagrante de l'épidémie, en tout cas des nouvelles contaminations. C'est l'Afrique centrale, l'Asie centrale et l'Europe de l'Est. Et il faut dire aussi que la Russie est passée en deuxième position du pays où on a le moins de possibilités d'avoir la mise sous traitement des personnes qui vivent avec le VIH, tout simplement parce qu'on est dans un État qui criminalise et discriminalise ces mêmes populations. Donc effectivement, Elton John a tout à fait raison d'accuser l'Europe de l'Est et là aussi sur ce point de vue.
Daniel Messager.
Est-ce qu'il y a des représentants des pays de l'Est, justement, ou de la Russie, lors de cette conférence internationale?
Aurélien Bocan.
Alors, des représentants officiels, institutionnels, pas vraiment, en fait. On est surtout face à des représentants de la société civile, donc des associations, des activistes, des personnes qui ont vécu aussi des choses assez difficiles. Hein. Je vous prends un exemple. Là, hier, effectivement, on a beaucoup travaillé avec les populations usagers de drogue qui ont témoigné, en fait, de la difficulté qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont discriminées, elles ne peuvent pas avoir accès, de toute façon, aux outils de prévention.
Oui. Hein, au programme de réduction des risques.
Exactement, mais tout à fait. En fait, il faut savoir qu'on est vraiment sur une politique de la drogue assez importante, alors de façon générale et mondiale, mais plus particulièrement au niveau de la Russie, et que on avait des programmes, en fait, qui étaient financés par le Fonds mondial, qui est une grosse organisation qui finance la prévention et les traitements, et qui a dû se retirer de toute façon. Et il faut savoir qu'au niveau mondial, deux tiers des programmes, en fait, de ce qu'on appelle harm reduction, donc de réduction des risques, de programmes d'échange de seringues, par exemple, ou des programmes de substitution de produits, en fait, était financé par cette organisation-là. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se fait, effectivement. Là, on a le plus d'augmentation de contamination, c'est parmi ces populations.
Lors de cette conférence, on a aussi entendu Charlize Theron, l'actrice, qui a dit, je la cite, « L'épidémie n'est pas juste à propos du sexe ou de la sexualité. Nous savons que c'est lié au statut de deuxième classe donné aux femmes et aux jeunes filles dans le monde. » Que pensez-vous de ces propos, professeur Jean-Michel Molina?
Écoutez, je crois qu'effectivement, il faut rappeler que dans les pays les plus touchés par l'épidémie, l'Afrique subsaharienne en particulier, ce sont les femmes qui sont les plus touchées, notamment les jeunes femmes. Les jeunes femmes qui ne peuvent pas toujours d'ailleurs négocier avec leurs partenaires, qui sont souvent plus âgés, l'utilisation du préservatif.
C'est en ce sens que la possibilité de disposer d'un autre outil de prévention à côté du préservatif, comme ces comprimés dont on parle avec la PrEP, est une façon pour ces jeunes femmes de se protéger, d'avoir un médicament qui leur permet d'éviter d'être contaminé par le virus du sida, même si leur partenaire n'utilise pas de préservatif ou ne veut pas en utiliser. C'est la raison également pour laquelle l'OMS promeut cet outil de prévention qu'est la PrEP dans l'ensemble des pays qui sont touchés par l'épidémie, où d'ailleurs, on a vu lors de la conférence, beaucoup de programmes se mettre en place pour, encore une fois, renforcer la prévention, réduire le nombre de nouvelles contaminations, car qui dit contamination dit une infection pour toute la vie, un traitement pour toute la vie, ce qui représente pour ces pays dont les ressources sont limitées un coût extrêmement élevé. La prévention est, on le sait bien, une façon beaucoup plus coût efficace sur le plan stratégique pour gérer une épidémie.
Daniel Messager ?
Oui, il y a des chiffres qui ont été communiqués d'ailleurs qui sont absolument effrayants par l'UNICEF. Toutes les 3 minutes, une adolescente est infecté par le VIH. Lors de la communication de l'ONU SIDA la semaine dernière, on apprenait qu'une nouvelle infection sur 4 touchait les filles de 15 à 24 ans. Est-ce que, lors de cette conférence, vous avez eu le sentiment que les pays les plus touchés, ceux effectivement que vous évoquiez, professeur Molina, où la jeune fille parfois n'est pas consentante, parfois est mariée de force, parfois n'a pas de moyens et est obligée de subir un mariage forcé, est-ce que vous avez le sentiment que les choses peuvent avancer et que des pays peuvent s'engager sur une éducation sexuelle globale dont bénéficieraient enfin les jeunes filles?
Alors, professeur Jean-Michel Molina, chef du service, je rappelle, des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Louis à Paris, puis après on écoutera le professeur François Dabis. Professeur Molina.
Oui, écoutez, je crois qu'en tout cas, il y a une prise de conscience réelle des besoins de ces jeunes femmes, de ces adolescentes. Il y a un certain nombre de programmes, maintenant, nous l'avons vu lors de la conférence, qui ciblent les jeunes adolescentes, aussi les jeunes hommes adolescents, mais plutôt les jeunes femmes, pour justement leur proposer différents services. Alors ça va à des centres de dépistage communautaire, à des cliniques spécialisées dans les hôpitaux. On essaie de trouver les modes d'accès à ces jeunes filles qui leur permettent facilement, de façon confidentielle, d'avoir accès à une sorte de prise en charge globale de leur santé sexuelle qui va de la contraception aux IST, aux infections sexuellement transmissibles, et au VIH, parce que ces jeunes femmes n'ont pas toujours conscience de leur risque de contracter le VIH. Elles sont souvent plus inquiètes du risque de grossesse. Il est donc important de leur rappeler que à côté de la contraception, il y a également à prendre en compte ce risque de contamination par le VIH ou d'autres infections sexuellement transmissibles. C'est en ce sens que ces programmes qui sont globaux, on peut l'espérer, vont permettre d'améliorer la santé sexuelle de ces jeunes femmes.
Professeur François Dabis, je rappelle, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida, ces chiffres révélés aujourd'hui par l'UNICEF, une adolescente de 15 à 19 ans est infectée toutes les 3 minutes par le VIH. L'UNICEF parle de crise de santé publique oubliée. Ce sont les bons mots?
Alors, elle est oubliée au sens où, effectivement, on a certainement pendant longtemps pas investi et négligé ces questions. Il y en avait d'autres à régler peut-être auparavant. Pour approfondir un petit peu ce qu'a dit Jean-Michel Molina, on a vu quand même des expériences maintenant à d'assez large échelle pour essayer que les jeunes femmes et les jeunes filles s'approprient les questions de leur sexualité, les questions de la maîtrise dans leur couple, etc., dans des pays comme le Kenya, dans des pays comme l'Afrique du Sud, c'est-à-dire des pays particulièrement affectés. Et on voit ici des exemples à cette conférence de choses qui marchent et ce ne sont plus juste des toutes petites expérimentations, ce sont vraiment des choses à très large échelle. Mais bien sûr, tout ceci n'est encore pas suffisant, et il faut imaginer aussi que sur les 10 années à venir ou les 20 années à venir, la démographie de l'Afrique est tout à fait en notre défaveur, c'est-à-dire que beaucoup de tranches d'âge de très très grande quantité de jeunes adolescents vont rentrer dans les âges de la sexualité, et donc les questions de prévention dont on a parlé tout à l'heure, elles se posent là et elles se poseront encore là, encore à plus large échelle que dans les années qui viennent de s'écouler. Donc oui, il faut vraiment mettre le turbo sur tout cela.
Un courriel de Marie, elle est infirmière scolaire, elle nous écrit: s'il vous plaît, Madame la Ministre de la Santé, donnez des préservatifs gratuits pour les infirmières scolaires afin que nous puissions donner aux élèves qui en demandent. Que pensez-vous de cette requête, professeur Molina ?
Écoutez, je crois que tout ce qui peut favoriser effectivement l'accès aux préservatifs doit être encouragé. Je crois que c'est évidemment essentiel. Il existe d'ailleurs dans un certain nombre d'associations, dans les CEGID, ces centres de dépistage anonymes et gratuits qui ont été mis en place partout en France, la possibilité pour des jeunes femmes d'avoir accès à effectivement des conseils en termes de contraception, en termes de dépistage des infections sexuellement transmissibles et bien entendu l'accès à des préservatifs gratuits. Mais je pense qu'on peut probablement faire plus et effectivement favoriser et développer l'usage du préservatif, bien entendu, c'est extrêmement important. Oui. Je rappellerai simplement que si l'épidémie du VIH perdure en France et dans le reste du monde, c'est parce que cette utilisation du préservatif est insuffisante. Et je crois que le coût n'est pas le seul frein à l'utilisation de préservatifs. Je pense que même si nous avions un accès plus large à des préservatifs gratuits, il n'en reste pas moins qu'une partie de la population est réticente à une utilisation permanente dans toutes les situations du préservatif. Je crois que c'est la raison pour laquelle, encore une fois, multiplions les outils à notre disposition, faisons en sorte que ceux qui veulent ou qui peuvent utiliser le préservatif le fassent, que ceux qui ne le peuvent pas ou ne le souhaitent pas aient accès à d'autres outils de prévention de façon à éviter les contaminations. Notre objectif, au bout du compte, c'est d'enrayer cette épidémie et d'éviter que de nouvelles personnes soient contaminées.
Un mot à ce propos, Aurélien Bocan, Amsterdam, président de l'association AIDE.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec avec Jean-Michel. Après, je pense que la problématique, elle dépasse, elle est large, parce que dès qu'on parle, on parle de préservatifs, on parle de sexe. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on que malgré tout, quand on parle de ces sujets-là, il y a un jugement de valeur, il y a une problématique très forte. Hein. C'est pas pour rien que le VIH a une visibilité un peu particulière dans nos paysages. On parlerait pas de la même façon de quelqu'un qui vit avec une hépatite, par exemple, parce que c'est pas tout à fait les mêmes modes de transmission. Mais c'est vrai que sur le VIH, on reste sur une infection honteuse quelque part. Même si on a des traitements aujourd'hui, vivre avec le VIH, c'est pas évident. Il y a toujours le regard et le poids sociétal sur la personne qui vit avec le VIH et c'est pas anodin. Pour revenir à la question du préservatif à l'école, effectivement, il y a un réel besoin. Le problème, pour moi, il vient pas du ministère de la Santé, il vient surtout de l'éducation nationale. Hein, ça, on n'arrête pas de le dire depuis plusieurs années. Et puis, rappeler aussi que, de toute façon, les chefs d'établissement en collège et lycée restent décisionnaires par rapport à la mise en place de cours d'éducation sexuelle ou de prévention sexuelle, tout simplement. Hein.
Alors, j'évoquais au début de l'émission le relâchement dans la prévention qui inquiète et puis aussi une baisse des financements internationaux. Et on a reçu de nombreux courriels, je les résume, on nous demande quels sont les besoins. On dit qu'il manquerait des milliards de dollars et alors la question revient très souvent, à qui la faute? Alors professeur François Davis.
Alors, il manque effectivement actuellement, en l'état actuel des estimations, de l'ordre de 7 milliards de dollars par an. Et on parle pendant au moins une dizaine d'années pour que on considère qu'on travaille à peu près dans des bonnes conditions et qu'on respecte les objectifs qui ont été fixés. À qui la faute? C'est compliqué aujourd'hui. Bien sûr, les pays eux-mêmes doivent s'engager, les pays affectés en particulier. Et on voit qu'un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, a fait des très gros efforts financiers lui-même pour en partie contrôler son épidémie. Mais bien sûr, les bailleurs de fonds, disons les pays les plus riches, doivent continuer à investir et apporter cet effort. Et aujourd'hui, on est un peu dans une phase d'hésitation. On a à court terme des garanties, mais pas des garanties sur le long terme. Alors il y aura l'année prochaine en France une conférence pour débattre et que autour de la table, tous ceux qui ont envie que cette épidémie soit contrôlée voient ce qu'ils peuvent mettre dans cette grande enveloppe. Et on attend beaucoup de cette conférence qui aura lieu en France sous l'égide du président de la République. C'est lui qui l'a décidé et qui l'a annoncé il y a peu de temps. Et il faut absolument qu'on ait des engagements sur le long terme et que la lutte contre le sida ne soit pas fragilisée et que d'une année à l'autre, on puisse dire non, il va falloir arrêter ceci ou arrêter cela. Alors vous l'avez compris, le problème, il faut qu'on le traite dans la durée et il faut qu'on le traite à l'échelle.
Daniel Messager.
Des engagements pour qu'il y ait davantage de traitements pour tout le monde, parce que je rappelle une information dont qu'on n'a pas évoquée ici, mais qui est trop méconnue encore, c'est que une personne séropositive sous traitement ne transmet plus le VIH. Donc effectivement, s'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient sous traitement, on assisterait par le fait à une diminution de l'épidémie. Mais encore une fois, faut-il que ces traitements soient plus largement diffusés? Faut-il que cet argent arrive? Et si, effectivement, il n'y a pas ces engagements qui se poursuivent, on voit que les États-Unis vont diminuer leurs engagements sous l'Amérique de Trump, c'est plus compliqué. Et si des gros pays comme ça diminuent leurs engagements, effectivement, ce que rappelaient les médecins qui sont avec nous au début de cette émission, on ne pourra pas atteindre les objectifs qui étaient en 2020 d'avoir moins de contamination, d'avoir plus de personnes sous traitement. Et encore une fois, je le rappelle, parce que ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, une personne sous traitement bien suivie ne transmet plus le VIH.
Je résume là encore les courriels que nous recevons. Les auditeurs ont remarqué que le professeur Jean-Michel Molina a utilisé le mot de vaccin dans son intervention. Et bien sûr, la question revient très souvent. Où en est-on dans la recherche pour un vaccin qui permettrait de neutraliser ce virus du sida? Encore une fois, le Truvada, cette prophylaxie pré-exposition, c'est un médicament à prendre avant un rapport sexuel pour ne pas être contaminé. Mais les recherches sur le vaccin, est-ce qu'on peut imaginer, professeur Molina, qu'elles vont aboutir à échéance de 5, 10, 20 ans? Là encore, ce sont des questions qui reviennent très souvent sur le site de l'émission.
Bien sûr, je crois que c'est une question tout à fait légitime et les chercheurs continuent effectivement d'avancer vers la piste d'un vaccin, que ce soit en France, au niveau international. Il existe d'ailleurs des collaborations transnationales sur ce sujet. Je crois qu'il y a effectivement à la conférence peut-être quelques espoirs portés par un vaccin qui pourrait dans les années à venir être testé à plus large échelle chez l'homme pour essayer de démontrer son efficacité. Je crois voilà, on a quelques pistes aujourd'hui, rien en tout cas qui puisse être mis à disposition du public dans les quelques années qui viennent. Je crois qu'il faut rester optimiste et continuer les recherches dans ce domaine. Je rappellerai pour revenir sur ce que je disais au début de votre émission, c'est que continuer à développer de nouveaux outils de prévention de l'infection, ça reste essentiel, que le vaccin n'est pas encore disponible. Lorsqu'il le sera, il viendra se rajouter au préservatif, il viendra se rajouter à la PrEP que nous avons aujourd'hui. Et je crois que c'est la multiplicité de ces outils qui permettra, je l'espère, avec le renforcement du dépistage, oui, avec le traitement plus précoce et plus large de toutes les personnes infectées, de venir peut-être à bout de cette épidémie dans les années à venir.
Dernier appel ce soir, c'est Francis à Sainte. Bonsoir Francis.
Oui, bonsoir à toutes et à tous, je vais être rapide. Donc j'ai percuté à l'instant par rapport aux chiffres, aux besoins nécessaires au niveau financier. En fait, en quoi consistent réellement les recherches pour éradiquer le virus, quoi? Parce que ça fait 35 ans que ça est utilisé, je crois.
Professeur François Dabis, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida, cet argent dont vous avez besoin, que vous utilisez, de quelle façon l'utilisez-vous?
Alors, on ne parle pas de l'argent de la lutte, on parle de l'argent pour la recherche cette fois-ci. L'argent contre la recherche, aujourd'hui, on a deux pistes principales. Bien sûr, la piste du vaccin qui a été évoquée précédemment et pour laquelle, aujourd'hui, il est vraiment impossible de fixer un échéancier parce que nous butons sur des difficultés extraordinairement complexes et nous avançons, mais nous avançons lentement. Il est aujourd'hui impossible d'apporter un calendrier prévisionnel sérieux. Une deuxième piste beaucoup plus récente sur laquelle nous travaillons avec certaines promesses, c'est peut-être d'arriver un jour, je dis bien un jour, je ne peux pas encore fixer l'échéance non plus, à une forme de rémission, un petit peu comme dans le cancer, où on pourrait peut-être, sous certaines conditions, bien sûr, et peut-être pour certaines personnes uniquement, arrêter les traitements antirétroviraux, moyennant bien sûr une intervention probablement sur le système immunitaire. On commence à avoir des pistes sur ce sujet. L'ANRS organisera demain, ici à Amsterdam, un symposium où il réunit les scientifiques des différents pays pour en débattre et voir comment nous avançons. Mais peut-être que la piste de la rémission sera une piste sur laquelle nous aurons des avancées avant celle du vaccin.
Je rappelle ce chiffre, la maladie du sida a infecté presque 80 millions de personnes depuis le début des années 80. Plus de 35 millions ont succombé et donc ce congrès, ce 22e congrès consacré à la lutte contre le sida à Amsterdam avec de nombreuses informations, de nombreux échanges sur la prévention bien sûr, mais bien sûr pour l'instant, toujours aucune information précises et d'échéances précises concernant un vaccin contre cette maladie. Daniel Messager, un mot pour conclure?
Oui, un mot pour dire que les outils sont là, en fait. Il faut effectivement ne pas baisser les bras parce qu'on a, on est vraiment dans, depuis ces dernières années, dans un moment où on pourrait vraiment enrayer cette épidémie avec ces personnes, je le disais, qui sont sous traitement et qui ne transmettent plus, avec un meilleur dépistage, avec cette PrEP qui permet pour les personnes les plus à risque de ne plus être contaminées. Les outils sont là, les moyens sont là. Il faut absolument que les nations s'engagent pour continuer à financer cette lutte contre le sida, puisque ça passe par des moyens, effectivement, mais c'est possible.
Daniel Messager, invité ce soir au téléphone Sun, journaliste santé à la rédaction de France Inter. Merci à nos invités à Amsterdam. Au téléphone, le professeur François Dabis, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida. Le professeur Jean-Michel Molina, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et Aurélien Baucan, le président de l'association Aide.